Le journal présenté par Marc Bertrand.
Bonjour à tous. L'Union européenne se retrouve à Bruxelles ce matin sur la question des migrants. Emmanuel Macron va proposer aux autres pays membres des centres fermés sur les côtes de l'Union européenne. L'Italie est en première ligne. Elle refuse et appelle la France à accueillir elle-même les exilés qui débarquent en Méditerranée. Voilà pour le symbole d'une Europe divisée. Pendant ce temps-là, l'urgence est là en Méditerranée. Le navire Lifeline, 230 migrants à son bord, est toujours en mer sans port pour accoster. Comme l'Aquarius, il y a une semaine. Près de 800 personnes ont par ailleurs été secourues hier au large de l'Espagne. Une situation qui inquiète de l'autre côté des Pyrénées. À Madrid, correspondance de Marie-Hélène Ballestero.
Les embarcations de fortune ne cessent d'affluer au large des côtes andalouses et des îles Canaries. Le week-end dernier, plus de 1000 personnes avaient été secourues, toujours dans la même zone. Pour certains, ces arrivées massives sont dues à l'appel d'air provoqué par l'accueil des migrants de l'Aquarius. Pourtant, selon les chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, l'arrivée de migrants en Espagne n'a cessé d'augmenter depuis 2013. En 2016, la hausse était de 50% et en 2017, le chiffre a été multiplié par 3 avec plus de 22 000 migrants qui ont débarqué en Espagne. Et selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis le début de l'année, plus de 12 000 migrants sont déjà arrivés en Espagne. Comme le souligne le quotidien Público, cette hausse est donc bien antérieure à l'arrivée de l'Aquarius au port de Valence et de Pedro Sánchez à la tête du gouvernement espagnol. Par ailleurs, la fin du Ramadan et les bonnes conditions climatiques ont également contribué à l'afflux des embarcations de fortune au large des côtes espagnoles. Et cela devrait continuer pendant l'été, d'où l'urgence pour l'Espagne de trouver des solutions. La gestion de l'immigration est devenue l'une des priorités du nouveau gouvernement socialiste espagnol de Pedro Sánchez. Ce dernier souhaite que l'Europe apporte enfin une réponse et une politique commune pour faire face aux défis de l'immigration.
Marie-Hélène Ballestero. Les Turcs votent depuis ce matin élections présidentielles et législatives dans le pays. Elles s'annoncent serrées pour Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP, particulièrement dans les zones à majorité kurde. Le parti pro-kurde, s'il dépasse 10% des voix, pourrait bien priver l'AKP de la majorité au Parlement. L'Arabie Saoudite autorise depuis aujourd'hui les femmes à prendre le volant. C'est l'une des mesures phares du programme de modernisation du pays lancé par le jeune prince héritier Mohamed Ben Salman. Les femmes saoudiennes restent soumises à l'autorisation d'un homme pour voyager, pour étudier ou encore travailler. Et les militantes des droits des femmes font l'objet d'une répression particulièrement sévère ces derniers temps. Au Nicaragua, au moins 5 nouveaux morts hier dans la répression des manifestations contre le président Daniel Ortega. Les forces de l'ordre ont attaqué les barricades érigées dans une université de la capitale, Managua. Alors que la réforme de la SNCF ouvre la voie vers la concurrence sur le rail, au Royaume-Uni, les chemins de fer sont renationalisés aujourd'hui. Les entreprises privées Virgin et Stagecoach, qui exploitent le réseau depuis 3 ans, n'arrivent pas à payer la franchise promise à l'État britannique. C'est donc une filiale du département des transports qui prend le relais de façon provisoire. Explication à Londres de Marina Daras.
En 2015, l'exploitation de la ligne de chemin de fer côtière de l'Est de l'Angleterre était attribuée à une co-entreprise qui avait accepté de payer le gouvernement plus de 3,5 milliards d'euros pour une franchise qui devait aller jusqu'en 2023. Mais la société privée avait surestimé la rentabilité de la ligne et en seulement 3 ans, elle a perdu environ 220 millions d'euros. Le contrat a donc été résilié prématurément par le gouvernement britannique. Problème, c'est la 3e fois en un peu plus d'une décennie que le gouvernement reprend le contrôle de cette même ligne. La preuve que la privatisation des lignes ferroviaires ne fonctionne pas aussi bien que le gouvernement le souhaiterait. D'après le ministre des Transports, Chris Grayling, les compagnies ont surestimé la croissance du nombre de passagers et de revenus et devaient mettre la main à la poche pour remplir les conditions de son contrat. La co-entreprise de son côté imputait ses problèmes à l'opérateur des voies ferrées, affirmant qu'il n'avait pas réussi à moderniser la ligne, ce qui leur aurait permis d'offrir des services plus fréquents et de rentrer dans leurs estimations. Le ministère des transports gérera dorénavant le service jusqu'à ce qu'un nouveau partenariat puisse être nommé en 2020. Mais comme c'est le cas en France, la question de la privatisation des lignes de chemin de fer fait débat et les travaillistes ont promis de repasser tous les opérateurs ferroviaires sous le giron de l'État s'ils venaient à reprendre le pouvoir.
Marina Daras à Londres pour France Culture. La Coupe du Monde de football a pris un tournant très politique avant-hier à l'occasion du match Suisse-Serbie. La Suisse l'a emporté sur 2 buts de joueurs d'origine kosovare. Ils ont célébré leur victoire en mimant l'aigle du drapeau albanais avec leurs mains. L'épisode est depuis qualifié de provocation dans la presse serbe. Le sélectionneur serbe a également fait une sortie remarquée. Il a suggéré d'envoyer l'arbitre de la rencontre à La Haye pour être jugé, je cite, comme nous les Serbes l'avons été au tribunal pénal international. La FIFA, la Fédération internationale de football, proscrit toute manifestation politique lors de ces matchs. Elle a donc ouvert une enquête préliminaire à l'encontre des 2 joueurs suisses ainsi que du sélectionneur serbe. Encore du soleil aujourd'hui partout en France, hormis de faibles risques d'orage pour le sud-est. Les températures vont varier entre 23 et 29 degrés du nord au sud cet après-midi.